Alors nous allons essayer de respecter à peu près notre horaire de fin pour terminer vers 17h. Donc j'invite tout de suite Elisabeth Pellegrin-Genel à nous rejoindre. Donc pendant que vous installez votre diaporama, je vais dire quelques mots sur qui vous êtes. Donc architecte diplômée par le gouvernement, vous êtes aussi urbaniste et psychologue du travail. Et à ce titre, vous avez une activité de consultante spécialisée sur les problématiques de l'espace, du travail et de l'organisation du travail dans l'espace. Trois publications peuvent nous intéresser. La première, dont je dis deux mots, c'est « Des souris dans un labyrinthe » aux éditions La Découverte en 2010, avec comme sous-titre très explicite « Décrypter les ruses et manipulations de nos espaces quotidiens ». Donc cet ouvrage essaie de décoder les incitations des lieux publics ou privés à nous comporter de telle ou telle façon. Donc, c'est une sorte de manuel du savoir regarder. Ensuite, en 2012, toujours à La Découverte, Une autre ville sinon rien et étudie des réalisations alternatives vers des modes de vie plus économes et plus respectueux de l'environnement. Et puis enfin, sorti le 5 avril, si je ne me trompe, Comment se sauver de l'open space avec des parenthèses qui pourraient donner comment sauver l'open space. Donc chez Parenthèse Édition, dans la collection Architecture, et qui interroge ce modèle de l'open space. Voilà, je vous laisse donc la parole.
Merci de votre invitation. Je suis arrivée simplement dans l'après-midi, mais j'ai trouvé que vous étiez super en avance sur le numérique, puisque là, vous m'avez demandé de parler plus de vos bureaux et de l'aspect des bureaux. Et je pense que c'est nous qui avons des leçons à prendre de votre avance plutôt que l'inverse. Enfin, le paradoxe que je vois, c'est que la médiathèque est de plus en plus perçue comme un lieu de travail ou un tiers-lieu, comme vous l'avez évoqué, par absolument toute la population, mais pas forcément perçue comme votre lieu de travail à vous. Et j'ai fait quelques missions dans des... Bon, évidemment, je fréquente les médiathèques comme tout le monde, mais j'ai fait aussi quelques missions d'accompagnement au changement dans des médiathèques. Et à chaque fois, j'ai été frappée du côté délaissé, c'est-à-dire qu'on met vraiment la gomme sur un magnifique atrium, des espaces publics extraordinaires. Et puis, il y a 300, 400 mètres carrés ou 200 qui se baladent dans un coin. Et là, on va mettre les bibliothécaires. Et... J'ai été amenée aussi à regarder de plus près comment on installait vos banques d'accueil, comment on installait vos bureaux, puisque on ne part pas forcément du principe que le bureau, que l'espace public de la médiathèque est aussi votre lieu de travail au même titre que vos bureaux en back-office. Et je voulais juste... j'ai prévu une petite présentation sur les bureaux, et puis après, je voudrais parler de vos bureaux, évidemment, mais comme il faut qu'on accélère pour que... parce qu'il y a eu un petit peu de retard. Je voudrais juste auparavant partager quelques questions. Moi, de ces missions en entreprise, en médiathèque, ce que j'avais vu, c'est que les publics n'étaient pas forcément faciles, qu'il y avait beaucoup d'énergie perdue à lutter contre des incivilités diverses et variées, et qu'il pouvait y avoir des sentiments de flip, enfin, excusez-moi du terme, quand il y a trop de monde ou quand il n'y a pas assez de monde, ce qui revient finalement presque au même. Ce qu'on avait fait quand même, c'est on avait pointé l'importance du regard et de la disposition du mobilier, de la disposition des étagères de bouquins, et très souvent c'était pas pris en compte la visibilité que pouvait avoir le poste de bibliothécaire. Pour qu'il y ait un contrôle visuel sur ce qui se passe, pour ne pas avoir des gens qui vous arrivent dans le dos, pour pouvoir quand même jeter un œil. Et pour pouvoir jeter un œil, il ne faut pas avoir les rayonnages mis dans le mauvais sens par rapport à votre poste. C'est plus facile de changer votre poste que les rayonnages. Mais ça, vous le savez comme moi. Enfin, on sous-estime aussi toujours, puisqu'il n'y a jamais assez de personnel en général, on sous-estime toujours l'entraide par le regard, facilitée souvent par ces parties en atrium, parce qu'on se voit enfin, je ne dis pas que toutes les médiathèques sont sur ce parti architectural, mais il y en a beaucoup. Donc, on se voit facilement d'un poste à l'autre, mais à condition que ça a été pensé. Enfin, voilà, c'était quelque chose que je voulais vous dire. Avant d'attaquer sur l'open space, donc je vais quand même aller assez vite. Bon, l'open space, il ne date pas d'hier. Il était au départ simplement, il a été très très marqué par la mécanisation, c'est-à-dire qu'on rangeait les personnes et les machines telles que, parce que on n'avait pas le temps de réfléchir à autre chose, et puis ça permettait un contrôle, cette fois-ci dans un autre sens, qui n'était pas tellement de l'entraide, mais plutôt de surveiller. Donc on ne se prenait pas tellement... disons qu'il n'y avait strictement aucune réflexion sur l'open space. Puis, il y a eu, dans les années 60, on a commencé à se dire, c'est les frères Schnell qui ont inventé ça, qui étaient des consultants en Allemagne, mais ça a été très, très vite importé aux États-Unis, puis c'est revenu en France plus tard. C'était de se dire, qu'est-ce qu'on fait dans les bureaux? Ben, y a un monsieur, à l'époque, c'était un monsieur ou une dame, qui a son chariot avec les documents, et qui, évidemment, puisqu'à l'époque, il n'y avait rien d'autre, qui amenait les documents aux personnes pour travailler. Et donc, ils sont partis de ce truc tout bête qui était, et si on suivait ces circuits de distribution de l'information, et si, au lieu de placer les gens sur une position hiérarchique, les chefs dans un coin, les cadres intermédiaires dans un autre et les autres ailleurs, si on enlevait les murs et on plaçait les gens en fonction du circuit de l'information, qui était évidemment beaucoup plus simple que ce qu'on a aujourd'hui par rapport à tous les sujets que vous avez évoqués, puisque c'était encore pratiquement que du papier. Très vite, ça a donc fait ses preuves au sens où ça a redonné un véritable dynamisme, parce que les gens se voyaient, se parlaient, il n'y avait plus les frontières hiérarchiques qui étaient extrêmement présentes dans les années 60. On appelait ça paysager, parce qu'il y avait réellement du paysage, il y avait réellement de la verdure. Sauf que très vite, évidemment, on a commencé à enlever les bacs pour densifier un peu plus, mettre des armoires. Et puis surtout, on a perdu, en cours de route, on a perdu l'idée de placer les gens selon une logique, c'est-à-dire selon ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien qui était à droite et qui était à gauche, puisqu'ils travaillaient avec. Donc là, je vais aller très vite, mais le bureau paysager, il s'est développé énormément parce que finalement, vous pouvez, là où vous mettiez 20 personnes dans une organisation classique, vous pouvez monter jusqu'à 48 personnes, 48 postes, je veux dire, dans une configuration en open space. Et puis, par-dessus le marché, si vous n'attribuez pas les postes, mais si vous mutualisez, vous montez même jusqu'à 80. Bon, je vais aller vite. Donc, voilà la dernière génération des open space. Mais les plans, ça ne vous dit pas grand-chose. Je vais peut-être vous trouver des photos. Et juste avant de vous montrer des photos, on a donc cherché à rationaliser le plateau. On a banalisé tous les postes, ce qui facilitait la maintenance, ce qui facilitait une image plus moderne pour éviter de lire un peu trop la hiérarchie dans l'espace. Très vite, on s'est aperçu que ça avait ses limites. Donc, on a cherché d'autres modes d'organisation, le bureau qu'on loue à l'heure, au sein de son entreprise, les postes qu'on mutualise, les postes premier arrivé, premier servi, etc. Et finalement, qu'est-ce qui reste de tout ça qui me paraît important à discuter après avec vous? C'est la question de sa place et la question de la place de l'écran. Enfin, la place de l'écran, vous l'avez largement déjà traité, mais vous l'avez traité dans les espaces publics. Il faudrait peut-être qu'on regarde. Donc, la question de sa place, alors peut-être qu'à l'échelle des médiathèques, c'est relativement un faux problème, parce que je ne crois pas que vous ayez des centaines de mètres carrés de bureaux en back-office pour vous. Enfin, mais bon, dans les entreprises, il y a vraiment un problème d'échelle et de densité, peut-être un peu moins pour vous. Mais en tout cas, la question de la place, c'est quelque chose qui reste absolument fondamental et qui est assez peu abordé. La question de l'échelle, ça, c'est pas en France, parce qu'en France, on ne peut pas faire ça. Mais ça, c'est à Londres. Mais vous voyez, vous avez 300 personnes sur un même plateau et dont certaines sont à 50 mètres d'une fenêtre. En France, on n'a pas le droit d'être à plus de 6 mètres d'une fenêtre. Donc, on ne peut pas avoir ce genre de choses. Mais malgré tout, c'est le rêve de tout directeur immobilier d'arriver à ce genre d'entassement. Parce que comme ça, il est tranquille, il voit tout le monde, ça prend pas trop de place et ça coûte pas trop cher. En fait, la réalité, c'est... parce que je vais vous montrer des photos autres, mais la réalité, c'est que on sait pas trop où ranger ses papiers. On bricole et on surélève son écran avec les moyens du bord parce que on n'est pas toujours bien installé. Et il y a donc encore beaucoup de progrès à faire. Oui, j'insistais sur la place de l'écran, c'est-à-dire que je pense que l'open space répond extraordinairement bien au travail sur écran. Vous vous asseyez, vous regardez votre écran, vous êtes concentré, le monde extérieur n'existe plus, donc c'est parfait, il n'y a rien à dire, tout ça est parfait, sauf que finalement on travaille par intermittence individuellement, et qu'est-ce qu'on fait quand on travaille à plusieurs, et qu'est-ce qu'on fait du numérique dans les bureaux et dans l'open space dès que c'est pas une histoire de face à face qui marche très bien avec l'écran, parce que vous pouvez, si les autres vous embêtent, vous pouvez toujours mettre un casque. Vous avez des tas de possibilités de vous en sortir. Par contre, dès que vous avez à travailler à plusieurs, dès que vous avez à échanger, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il se passe qu'en général, vous ne dites plus rien, parce que sinon, vous embêtez les autres. Donc, moralité, le plateau est hyper silencieux. Et plus il est silencieux, moins vous parlez, puisque tout ce que vous allez dire va être encore plus entendu. Donc c'est vraiment un cercle vicieux avec la perte de toute spontanéité et le fait que si vous êtes assis en face de moi, je vais vous envoyer un texto pour qu'on aille se fumer une clope, plutôt que de vous dire tiens, on se fait une pause. Je ne peux pas dire publiquement on se fait une pause. Donc voilà, l'espace contraint beaucoup, ça je voulais attirer votre attention là-dessus. Alors, j'essaye d'aller quand même un peu vite, je vois. Je voulais vous parler un petit peu des tendances d'aujourd'hui pour après qu'on parle un peu de vous, comment vous pourriez devenir plus acteur au moment où on vous aménage vos bureaux, que vous puissiez dire un peu plus ce que vous voulez et non pas vous laisser emberlificoter dans un programme qui date de je ne sais combien d'années, qui n'a jamais été discuté et qu'on applique basiquement et qui n'est pas forcément adapté. Alors, aujourd'hui, on a donc fait tomber les murs. Moi, je vais peut-être passer très vite là-dessus. Non. Donc, on a fait tomber les murs et on a mis, à cause de la réglementation française qui est bonne, celle-ci, pour avoir les postes en premier jour, enfin, à la lumière naturelle. Donc, tous les postes de travail sont rangés à droite le long des fenêtres. Et puis, au milieu, on nous met des boîtes et des boîtes et des boîtes. Et alors, certaines sont transparentes. Donc voilà, vous avez le plateau classique partout, avec toujours cette ambiguïté qu'on vous l'a vendue pour que vous communiquiez mieux, mais vous voyez bien que si vous communiquez, ça ne marche pas. Donc on vous invite pour communiquer, on vous invite à aller dans des boîtes plus ou moins fermées, plus ou moins ouvertes. Et je trouve que tout à l'heure, je ne sais plus quel monsieur a montré les fauteuils connectés et des mobiliers. Il y a vraiment des liens qu'il faut rapatrier entre la façon dont on conçoit le travail, souvent des étudiants, enfin, ou des plus jeunes, parce que c'est à cela qu'on pense souvent dans une médiathèque où on leur offre une variété de lieux, alors que pendant ce temps-là, pour vos propres bureaux, on va vous demander combien de postes de travail, une ou deux salles de réunion et basta. Alors que il n'y a aucune raison qu'on vous traite différemment qu'on traite le public d'une médiathèque. Donc voilà, je vais passer vite. Je n'ai pas l'air. Non, ça va. Donc des boîtes plus ou moins fermées, plus ou moins ouvertes. Il y en a de chez Google, il y en a des boîtes tout à fait classiques. Et il y a donc cette idée que vous allez travailler individuellement à votre poste et dès que vous avez quelque chose à faire d'autre, que ce soit téléphoner pour un truc un peu personnel ou un peu confidentiel, ça peut être de boulot, ou pour parler avec quelqu'un, vous allez vous déplacer. Ce qui est pas mal, hein, pour des salariés dans des entreprises classiques, c'est vraiment très bien parce qu'ils peuvent se dégourdir les jambes. Vous, comme vous courez déjà à droite, à gauche, dans vos médiathèques, vous avez peut-être un peu moins besoin d'aller vous dégourdir les jambes. Ça, je ne sais pas si c'est vous qui le direz. Donc, vous voyez toutes sortes de boîtes. Il y en a des très sophistiquées, d'autres non. Avec toujours cette question, les boîtes sont vendues aussi comme une façon de se protéger. Et je suis allée au salon Bureau Expo hier qui présente toutes les tendances du bureau de demain. Et c'est à peu près les photos d'ailleurs de ça, enfin, que j'avais faites avant, mais ça aurait pu être les mêmes. C'est-à-dire que par-dessus le marché, les boîtes se rétrécissent. Elles deviennent quasiment portatives. Et on va tous finir avec le robot qui est pas du tout, qui était plat là, mais on va tous finir avec notre bulle de plexi. comme vous avez à droite là, ça c'est des bureaux ordinaires. Alors, vraiment, en deux mots, ça pose quand même plusieurs questions. Ça pose la question de qu'est-ce qu'on mutualise entre le travail individuel, entre le travail collectif. Est-ce qu'on essaie, on cherche à faire des espaces le plus basiques possible ou est-ce qu'on cherche à offrir au contraire une variété d'offres, de lieux divers, un peu ce qui se passe dans justement les médiathèques. Est-ce qu'on rapatrie ça chez vous? Et puis ça pose la question du mobilier où je voudrais quand même m'arrêter une minute dessus. Le jour où vous choisissez, si vous avez la chance de refaire vos bureaux bientôt, faites très très attention au mobilier de bureau que vous allez choisir parce qu'on ne réfléchit jamais. On se laisse influencer par le service achat, par je ne sais qui, par un tas de choses, alors qu'en fait, tout ça, ça se vaut. Enfin, pas à gauche où c'est un designer qui l'a fait, hein, mais le reste, c'est de la grande série. Et simplement, réfléchissez. Voilà, je vous ai mis des exemples. Vous pouvez travailler en quinconce. Vous pouvez travailler à trois, mais sans vous voir, sans croiser les regards, comme la photo du milieu. Vous pouvez travailler, ça, c'est la dernière tendance de Orgatech, dans votre espèce de caisson en bois en haut à droite. Vous pouvez aussi choisir de travailler tous ensemble, comme à gauche, en bas, mais avec une assez grande distance entre votre vis-à-vis. Ça paraît idiot, mais voilà, la forme de la table, la disposition de la table, si elle a des roulettes, si elle n'a pas de roulettes, si vous allez pouvoir la bouger, pas la bouger, ça va influencer extraordinairement vos lieux de travail, vos façons de travailler et des choses dont que vous savez, mais que vous ne mettez pas forcément en mots. Il y a des espaces qui vous rendent malade, il y a des espaces dans lesquels vous vous sentez bien. Moi, personnellement, cet espace-là me rend malade. D'abord, il fait trop chaud et puis il n'y a pas de lumière. Donc, je pense qu'on ne peut pas penser dans un espace où il fait trop chaud et il n'y a pas de lumière. Heureusement, je crois que ce n'est pas facile, vous y êtes depuis ce matin, vous, mais bon. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Donc, l'espace en lui-même, et la qualité de la lumière, pouvoir ouvrir sa fenêtre, évidemment, tout ça, c'est important. Mais votre mobilier est tout aussi important. Or, on le choisit rarement, alors que vous vous prenez la tête chez vous pendant 3 semaines pour choisir un canapé. Ben, il faut faire pareil au bureau. Et il faut être exigeant, puisqu'on va vous dire que maintenant, c'est trop compliqué si on commence à consulter tout le monde. Bon. Alors, quelques tendances vite fait sur ce qu'on nous annonce pour demain. D'abord, un mot sur les ambiances. Il y a un gros, gros retour sur l'idée qu'il faut que les espaces de travail s'inspirent un peu de la maison ou de l'université ou de l'école maternelle. Bon, dès 95, Tchadet, ça existait. C'était un lieu absolument extraordinaire. Et quand Tchadet, qui était une agence de pub, a été racheté par d'autres actionnaires, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'évidemment, ils ont tout cassé et ils sont revenus à un décor classique. Mais bon, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus parler du travail. C'est totalement tabou. Donc, on met en scène le travail. Alors, évidemment, c'est Google, mais Google a une longueur d'avance sur ce qui va se passer dans les espaces de bureau. Ensuite, on ne vient pas travailler, mais on vient faire du baby-foot. Ou alors du sport. Bon, vous voyez, du sport où on se repose. Alors là, évidemment, l'ego, c'est normal. Ils ont quand même fait une salle de jeu pour... mais YouTube qui a fait un mini-golf, on ne sait pas trop pourquoi. Comvert à Milan, lui, comme il fait des planches à roulettes, c'était assez logique, encore qu'il ait un espace pour essayer ses planches. Et puis, par exemple, on fait de la balançoire. Enfin bref, on bouge. On se repose, on prend des petits cafés et on mange. Bon, là, j'ai pas trouvé de cuisine avec du monde, mais vous tapez n'importe quel bureau d'aujourd'hui un peu emblématique, genre Google, genre Coca-Cola, genre les GAFA, Yahoo, etc. Vous verrez que la première photo qu'on vous met, c'est la cuisine et c'est des gens qui mangent. Donc, j'avais oublié le toboggan, évidemment. Et des bureaux où on ne sait pas s'il y a des bureaux, quoi. Bon, tout ça, là, je plaisante un peu, mais je trouve ça quand même très embêtant qu'on euphémise à ce point-là le travail quand on essaye de vendre des espaces de travail et surtout quand on essaye de les penser. Donc là, il y a une euphémisation incroyable. Et c'est pour ça que je me demande toujours à quel moment on prend la photo. Et regardez donc les reportages de Google. Vous verrez que vous ne voyez jamais quelqu'un travailler. On est dans un village de vacances. Il y a même des photos sur de détails du buffet gratuit chez Google. Bon. Alors, plus sérieusement, ce qu'on observe, c'est une demande de nature, alors, qui peut prendre différentes formes, et qui commence souvent par le fait d'avoir de la lumière naturelle, par exemple dans un amphi, ou de pouvoir ouvrir la fenêtre. On observe aussi une volonté de pouvoir bouger. Bon, là, ça, j'ai trouvé ça marrant, donc je vous l'ai mis. C'est une table de réunion où vous pouvez tourner et faire de la balançoire en même temps. Vous avez aussi... vous pouvez travailler debout, ça c'est assez classique maintenant, mais maintenant vous pouvez travailler debout en marchant, classique aussi, et celui qui ressemble à une roue de hamster, c'est en courant. En courant. Il y en a un, j'ai vu un fabricant où il en produit pour recharger son téléphone, comme dans les gares. Et puis, ce qu'on observe aussi, autre tendance, puisqu'on se rend compte qu'on n'arrivera pas... On se rend compte que l'open space, il a gagné. Je veux dire, on n'imagine pas une seule minute qu'on va remettre des boîtes grandes, disons. Je ne dis pas du tout des boîtes individuelles, parce que je ne suis même pas sûre que les gens aient envie de se retrouver tout seuls dans leur bureau. Mais on voit que l'open space a vraiment gagné. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On invente des tas de trucs pour se protéger et décompresser. Finalement, ce qui passe à l'as, j'aurais pu appeler ça le travail numérique, d'ailleurs, finalement, pour être plus en phase avec votre journée de travail. Mais ça revient au même, c'est ça. On s'aperçoit que... finalement, on arrive à faire, j'ai beau la plaisanter un peu, on arrive à faire des open space quand même à peu près confortables, au sens où ils sont à peu près ergonomiques, ils sont propres, ils sont plutôt modernes, bon, ça va. Sauf qu'on s'aperçoit qu'on ne sait pas quoi faire du travail collaboratif, on ne sait pas quoi faire du virtuel à plusieurs, que ce soit parce que vous avez besoin de faire du Skype. Si vous avez votre robot, peut-être que ça va vous sauver la vie. Mais j'en ai vu que dans une entreprise, on a des robots comme ça. Ce n'est pas encore très, très, très répandu. Et ça pose... Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je voudrais après vous poser des questions sur vos propres bureaux. Mais c'est aussi parce que finalement, c'est peut-être le retour du mur. Soit le retour du mur pour pouvoir écrire dessus, comme sur cette photo. Mur qui peut être transparent, comme vous voyez en bas à gauche. Mais on voit que de plus en plus, on a besoin de lieux pour se retrouver, pour travailler ensemble. Et que ça, si on ne le prend pas en compte et qu'il faut le faire dans un coin de l'open space, ça ne marchera jamais. Et si c'est pour aller juste squatter une salle de réunion qui, en général, sera nulle, ça ne marchera pas non plus. Donc, je voulais attirer votre attention sur ce fameux travail collaboratif. Et par exemple, ici, je trouve que c'est un exemple assez réussi où finalement, c'est pas grand-chose, c'est pas non plus une boîte, mais le fait qu'ils aient un mur courbe dans le dos derrière eux et qu'ils puissent s'asseoir côte à côte, parce que ça paraît idiot, mais dans la plupart des bureaux, sauf quand vous êtes à vos postes, mais vous êtes pas très proches. Or, si on veut travailler ensemble, quelquefois, il faut être quand même assez proche et pas 1,50 m les uns des autres. C'est aussi beaucoup une histoire d'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a une forte demande, pour que à juste titre, pour que sans escamoter le travail et sans en faire du fun ou des clubs de vacances, avoir une atmosphère agréable, sereine, qui est inspirante et qui donne envie. Alors, l'exemple en haut à gauche... Ouais, j'ai encore le temps. C'est Steelcase aux États-Unis, à son siège social des États-Unis, puisque c'est la première boîte de fabricants de bureaux au monde. Et eux, ils ont trouvé que... j'ai trouvé que le raisonnement, c'est pour ça que je vous le raconte, était assez intéressant. Ils se sont aperçus que tous les matins, tout le monde fait la même chose. On arrive, on se plaint des encombrements, comme disait ma grand-mère, des embouteillages. On se plaint du métro, du RER, enfin du tramway, de tout ce que vous voulez. On se prend un café, on papote un petit peu histoire de décompresser. Et puis on commence déjà mentalement à s'organiser, à se dire, il faut que je fasse d'abord ça, régler ça. Et donc, ils se sont dit, plutôt que chacun aille faire... Et puis, on pose ses affaires. Bon. Et éventuellement, on recharge son téléphone parce qu'on avait oublié de le charger la veille. Ou son ordinateur. Et ils se sont dit, plutôt que de faire ça, chacun dans son coin, soit dans son bureau, soit à son poste d'open space, pourquoi on ne fait pas ça tous ensemble ? Et donc, ils ont inventé cette espèce de work café, comme ils appellent ça, où vous pouvez, j'allais dire un peu traînasser, mais ça rigole pas chez Steelcase. Je veux dire, c'est pas l'idée de traînasser, c'est une boîte américaine. Ils se sont aperçus que finalement, tout le monde gagnait du temps. On se voyait, tiens, il faut que je te voie tout à l'heure, bon, etc. J'ai presque fini ma présentation sur les bureaux. L'autre chose qu'il faut absolument avoir à l'esprit quand vous allez réaménager vos bureaux, en espérant que vous allez le faire, c'est d'aller s'inspirer de lieux alternatifs. Là, c'est Darwin à Bordeaux, mais vous avez un tas de lieux de coworking à droite et à gauche qui expérimentent vraiment des façons de travailler autres. Et là, ça vaut le coup de vous faire votre petite enquête sur qu'est-ce qui se passe dans un lieu de coworking, pourquoi ça marche. Qu'est-ce qui rend le travail tout d'un coup sympathique? Qu'est-ce qui rend l'open space tout d'un coup merveilleux? Parce qu'il n'y a que dans les coworking que les gens sont contents d'être en open space, alors que dans les entreprises, ils ne sont pas contents. Donc, je pense que c'est vraiment des choses à voir. Et ça, c'est un autre exemple à la Mutinerie à Paris. Ce sont toujours des lieux très inspirants qui développent autre chose. Voilà, j'ai terminé ma petite présentation et je voulais vous poser quelques questions. Un peu vous donner c'est un peu vite, mais une démarche des choses à penser pour concevoir vos propres bureaux qui seraient adaptés. Il faut que vous les adaptiez, c'est vous qui allez répondre aux questions, c'est pas moi. Je vous donne les items, mais voilà. D'abord, quelle ambiance vous recherchez? Est-ce que, parce que vous avez cette contradiction entre l'espace public où il y a du monde et votre espace privé. Donc, quelle ambiance vous recherchez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui doit se trouver à l'écart pour vous retrouver entre vous? Est-ce que c'est quelque chose pour vous ressourcer, vous, individuellement, et pas forcément entre vous? Est-ce que c'est surtout pour, vous démarquez un peu justement du bruit, de la médiathèque, du va-et-vient, des sollicitations permanentes, ou est-ce que c'est au contraire un endroit où vous trouvez que vous êtes plutôt seul dans votre exercice, soit quand vous êtes dans l'espace public, soit quand vous êtes à vos tâches de travail, et vous voulez mettre en avant l'inverse, vous voulez mettre en avant comment on fait un collectif de travail et comment on essaye de chercher dans l'espace des ingrédients qui vont vraiment favoriser ces collectifs de travail. Alors que souvent, quand l'espace est mal pensé, ça ne favorise rien du tout, quoi. Chacun se remet dans sa bulle. Donc ça, c'est vraiment la première question. Et je pense qu'il faut examiner ça d'un œil neuf et sans chercher tout de suite une solution. Il ne faut pas tout de suite se dire « Ah non, mais moi, les open space, je déteste. » ou « à deux, c'est mieux. » ou « à quatre. » ou je ne sais pas quoi. Il faut vraiment d'abord ne pas chercher la solution, mais essayer de raisonner en se disant qu'est-ce qui ferait que je serais bien et qu'est-ce que je mets en priorité? Est-ce que c'est mon travail individuel? Est-ce que c'est donc pouvoir le faire vite, bien, tranquille, au calme? Est-ce que c'est créer un collectif parce que justement on est tout le temps dispersé, on a des horaires qui ne se recoupent pas forcément puisqu'il y en a qui font des permanences, les autres qui ne sont pas là, bon, etc. Ça, c'est vraiment la première question à vous poser. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut vraiment que vous face à... au service financeur des médiathèques, c'est-à-dire sous les élus, face à l'architecte, face au space planner, face aux programmistes et tout, il faut vous imposer. Vous passez votre vie à essayer de vous demander, et ça m'a frappé tout à l'heure, qu'est-ce que voudraient les usagers dans votre médiathèque, et vous devez obtenir qu'on fasse la même chose avec vous. C'est-à-dire quels sont les usages qu'il faudrait que vous ayez dans vos bureaux. Or ça, alors par expérience, je peux vous dire que c'est rare. Hein. Enfin, c'est même quasiment impossible. Et surtout, on va à chaque fois, toutes les 5 minutes, on va vous opposer. Ah non, mais oui, d'accord, c'est une très bonne idée, mais techniquement, c'est pas possible. Alors ça, c'est imparable. C'est normal. Hein. C'est normal qu'on vous dise ça, parce que c'est vrai que techniquement, c'est peut-être pas si facile. Mais peu importe, la technique, elle est à notre service, c'est pas l'inverse. Et puis si ça a été pensé dès le début, techniquement, on aura pris les bons choix, donc ça, c'était pas un problème. Mais c'est une façon de... quand on vous oppose le techniquement, c'est pas possible, c'est une façon de lutter contre des demandes individuelles. C'est-à-dire que si on commence à dire oui à l'un, oui à l'autre, le concepteur en face ou le financeur en face, il est paumé, il dit c'est plus possible, on n'y arrivera jamais. Donc il faut absolument vous faire entendre, mais vous faire entendre collectivement. Effectivement, ce qui suppose d'avoir fait vous-même ce travail, de vous demander quel type de bureau vous voulez, d'avoir été un peu enquêté, et notamment d'avoir pris, par exemple, des photos dans vos propres médiathèques, des endroits que vous trouvez sympas pour travailler ou pour collaborer ou pour se détendre, et d'être acteur dans l'élaboration du programme. Et L'autre chose, c'est de ne pas penser que vous allez avoir des aménagements pour 20 ans. Enfin, si, c'est ce qu'on essaye toujours de faire. On essaye toujours de... Un chantier, il faut toujours régler des tas de problèmes avec l'idée qu'on n'y reviendra pas. Parce que ça sera toujours ça de régler. Mais autant c'est vrai pour des énormes espaces publics, autant à l'échelle de 300 ou 500 mètres carrés de bureaux, on peut très bien ne pas trouver du premier coup la solution idéale. Bon, on retroussera ses manches un jour et on redéménagera quelques tables et quelques trucs. Si on a fait les bons choix techniques de ne pas se mettre des fils à la patte trop courts, ce qui fait qu'on est coincé avec les branchements, ou si on a choisi des tables avec des roulettes, ce sera pas si compliqué que ça. Et il faut pas. C'est très difficile de trouver du premier coup exactement ce qui va vous convenir. Par-dessus le marché, au bout de 5 ans, vous aurez évolué, le numérique sera encore plus là, donc vous aurez encore plus évolué et vous aurez besoin de reconfigurer. Donc ça, il faut vraiment le penser et essayer d'opter pour des solution extrêmement légère. Enfin, et c'est là que ça va être très difficile pour vous, je pense, et puis on n'a pas le temps de développer, là il faut que je me dépêche si vous avez des questions à poser, il faut déterminer le pourcentage d'espace collectif et le pourcentage d'espace individuel que vous désirez. Parce que ça, c'est à vous de le dire. Après le concepteur, l'architecte, il se débrouille avec votre programme. Pour lui, c'est pas compliqué. Lui, il se débrouille derrière. Mais c'est à vous de dire, il faut vraiment qu'on ait tant de pourcentage d'espace vraiment individuel et tant de pourcentage d'espace collectif. Et cet espace individuel ou collectif, il faut vous dire qu'il peut tout à fait être dans des espaces ouverts ou dans des espaces fermés. Si je reprends l'exemple de l'open space, vous connaissez tous, je pense, les trains, les rames Zen et les rames Zap de la SNCF, qui sont donc strictement identiques. Simplement, en Zen, vous ne faites pas de bruit, vous coupez votre téléphone et c'est un lieu soit où vous dormez, soit où vous travaillez. Alors qu'en Zap, vous parlez et vous faites ce que vous voulez. Donc vous voyez bien que c'est aussi... On peut tout très bien avoir des espaces ouverts qui sont tout à fait dédiés au travail individuel parce que la règle a dit que dans ces espaces-là, on ne fait pas de bruit. On peut aussi avoir des espaces collectifs en bureau ouvert, mais parce que là, on a décidé qu'on faisait du bruit et que l'individuel se faisait ailleurs. Donc, c'est à la fois savoir vos besoins en matière de concentration et d'échange peut-être pour être plus parlante, mais sans non plus encore se focaliser en disant bah, ça veut dire qu'il nous faut 10 bureaux fermés et 3 grandes salles projet, par exemple. Pas forcément. C'est vous qui allez aussi peut-être assigner à l'espace des qualités et dire, moi, dans ce type d'espace, on va faire ceci, dans tel autre, on va faire cela. Vous pouvez aussi décider que, puisque vous êtes beaucoup par roulement, vous n'avez pas autant de bureaux que de personnes et que vous partagez vos bureaux, suggestion, hein, moi j'ai pas de jugement là-dessus. Par contre, là vous vous dites, oui mais attention, à ce moment-là, il faut qu'on ait vraiment un lieu où on puisse me laisser un mot, un bouquin, un dossier. Et là, vous vous faites une espèce de salon avec des vrais meubles de rangement avec vos noms, où vous avez des prises de courant pour recharger votre téléphone, où vous pouvez laisser vos affaires. Vous voyez, vous concevez à ce moment-là différemment en disant, bah, écoutez, on fait des économies parce qu'on est 18, mais finalement, 10 bureaux, ça nous suffira. Puis vous mettez 18 chaises pour les fois où vous êtes, tout le monde est là, mais c'est très rare. Par contre, puisqu'on a économisé de la place, on veut cette place pour faire ceci ou cela. Donc voilà à peu près ce que je vous vérifie que j'ai rien oublié de tout ce que je voulais vous dire. Enfin si, j'avais plein d'autres trucs à vous dire, mais j'ai pas le temps. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez la chance, même si ce que j'ai vu tout à l'heure, finalement, c'est peut-être pas pour si longtemps, mais contrairement à beaucoup d'autres métiers, vous avez la chance d'avoir encore des supports physiques. Vous avez encore le papier, vous avez encore le livre, même si apparemment, vous faites tout pour passer encore plus vite au numérique. Mais vous avez encore un ancrage, dans des lieux où il y a des livres, dans des lieux où il y a des gens. Or, dans de plus en plus d'entreprises, c'est une bande de gens autistes avec leur casque dans un silence de mort qui ne bougent quasiment pas de leur poste de travail. Donc, je pense que vous avez beaucoup de chance d'avoir ça et qu'il faut que vous essayiez de conserver ce côté presque physique qui tend vraiment à disparaître dans la plupart des entreprises. Voilà, j'ai fini. Et j'ai fini avant, hein. Je ne sais plus où elle est.
Oui, bravo. Du coup, ça nous laisse quelques instants pour des questions.
Oui, j'aurais une question. Alors, donc, nous, on a la chance de pouvoir concevoir nos espaces de bureau, sachant que l'open space a été d'emblée un dogme absolument inamovible. Et donc, c'est une question extrêmement sensible et extrêmement polémique de savoir comment ces bureaux vont être aménagés. Voilà. Moi, j'aurais deux questions. C'est que la première, c'est que finalement, alors je rejoins tout à fait dans l'expérience qu'on a, ce que vous dites, qu'on nous dit, bah, c'est comme ça, et puis voilà, faites avec.
Et il faut se battre.
Et que toutes les problématiques que nous, on a envers les usagers, elles sont exactement les mêmes en back-office. Mais que l'attention portée au public n'est pas la même côté professionnel. Et donc j'aurais une double question, c'est que dans quelle mesure est-ce que l'open space, vu comme une approche du travail collaborative, créative, etc., c'est un petit peu ça qu'on nous fait passer comme message, correspond finalement à la grande diversité des métiers des bibliothèques? Parce que quand vous nous montrez une entreprise en secteur tertiaire, même si les personnes ont des activités professionnelles extrêmement variées, ils sont derrière un poste informatique, caricature peut-être un peu, mais ils sont derrière un poste informatique, ils ont un poste téléphonique, et ensuite ils déploient des activités qui peuvent être différentes. Et c'est vrai qu'en bibliothèque, on a de fait des activités métiers qui impliquent des postures et des modalités extrêmement diverses, depuis un magasinier qui va couvrir des livres, qui va être debout ou en déplacement, un catalogueur qui va avoir besoin d'un niveau de concentration élevé. Et c'est vrai que cette diversité finalement de nos activités en back-office et puis en espace public est extrêmement difficile à concilier dans un open space qui par nature part du principe que tout est collaboratif, créatif et participatif. Et voilà, donc je vous livre tel quel un petit peu l'état de notre réflexion là-dessus.
Je pense que l'open space part du principe que tout est individuel. Enfin, moi, de ma pratique, de ce que je vois dans les entreprises où j'interviens. Mais on peut décider. Il y a deux choses. Il y a vraiment la taille de l'open space. Quand vous êtes 8 à 12, en général, quel que soit le métier, et on reviendra après sur l'histoire des métiers, ça ne fonctionne pas trop mal parce que vous savez qui fait quoi. En fait, c'est ça, le béaba de l'open space. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire des frères Schnell là, dans les années 60. Parce que c'était les premiers à avoir dit qui fait quoi. Et donc, qui fait quoi, s'il fait quelque chose qui a à voir avec moi, je le mets, il faut qu'il soit à côté de moi. Après, ça a été totalement oublié. Et encore aujourd'hui, moi, dans les grandes entreprises où j'interviens, tout le monde s'en fiche. Je veux dire, on met les gens là, parce que voilà, comme des petits poulets en batterie. Donc il y a beaucoup l'histoire de la taille. Si vous arrivez à avoir une taille à peu près où vous savez ce qui se passe, ça met tout le monde au même niveau d'information. Les gens qui reviennent de la médiathèque en 3 minutes sentent l'ambiance, ont l'info. Vous voyez, c'est pas de la communication, c'est un bain d'informations qui sera très pratique. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus jeter, c'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin comme ça, il ne faut pas non plus totalement jeter l'open space. Après, je connais un petit peu donc, tous ces métiers, puisque j'avais participé dans différentes bibliothèques aux aménagements de bureaux, enfin surtout d'ailleurs dans les espaces publics, mais un petit peu. Peut-être qu'il faut le vrai message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut arrêter de penser peut-être par personne. Mettons que vous soyez 20, je ne sais pas combien vous êtes chez vous.
20 euros et à peu près 20.
Oui, donc mettons 40. D'arrêter de penser, donc chacun avec qui a besoin d'un espace pour ceci, d'un espace pour cela, mais d'essayer de faire la liste des espaces qui seraient utiles. Vous avez parlé du catalogage. Ça, c'est quelque chose de... Bon, on sait, on voit bien. Après, il faut arriver à le dimensionner. Est-ce que... parce que, évidemment, qu'on ne va pas vous faire des cadeaux de mètres carrés. Vous, vous allez être obligé de jongler entre... ben là, on accepte d'être un peu plus serré pour faire ceci, mais en contrepartie, on veut cela. Je ne pense pas que vous... Enfin, vous pouvez toujours essayer, mais ça m'étonnerait que vous arriviez à avoir plus de mètres carrés. Après, c'est... ça va être beaucoup, si je me concentre, où est-ce que je peux me concentrer, et si on travaille ensemble, comment on travaille ensemble. Et moi, je crois beaucoup, mais ça, c'est à vous de voir, parce que c'est très perturbant, mais ça peut vraiment marcher. Moi, je crois beaucoup à la mutualisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, en gros, la moitié de l'effectif, finalement, est toujours de l'autre côté, enfin, côté public... Enfin, quand je dis la moitié, je suis pas sûre de mes chiffres. Hein. Mais est-ce qu'il ne faut pas concevoir des choses mutualisées plutôt que chacun son... Vous voyez, chacun son bureau, c'est une place énorme qu'on peut peut-être remplacer par chacun un lieu d'ancrage, évidemment, mais une profusion de lieux.
Oui, bonjour. J'avais une question, notamment aujourd'hui en bibliothèque, on assiste toujours plus au développement, vous savez, des postes qui sont au milieu des espaces publics. C'est-à-dire, on travaille de plus en plus à côté du public, et de plus en plus d'activités peuvent se faire dans des espaces qui ne rentrent pas dans la typologie des bureaux, à proprement parler. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce type d'espace? Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos réflexions?
Mais je pense qu'effectivement, vous avez les mêmes outils. C'est tellement facile de trimballer soit un micro, ordinateur, soit une tablette, soit son téléphone. C'est pas une question d'outils. Mais c'est pour ça que j'ai fait mon intro sur ça. C'est que je pense quand même que... même si, franchement, je trouve que les médiathèques... enfin, moi, je connais principalement celles en France. Hein, je les trouve quand même... Globalement, elles sont généralement sublimes. Je trouve qu'on a quand même des lieux assez extraordinaires. Les postes même d'accueil et les postes... Je ne sais pas comment vous les appelez, mais quand vous êtes à un étage donné, c'est encore de l'accueil, oui. Franchement, ils ne sont pas toujours bien pensés. Et je ne suis pas sûre... Enfin, parce qu'il faut qu'à la fois, vous puissiez surveiller, même si je mets ce mot entre guillemets, mais c'est vrai que vous êtes là aussi pour surveiller ce qui se passe, et vous concentrer sur ce que vous faites, et puis que le public respecte aussi ce que vous faites. C'est-à-dire, soit vous êtes vraiment à un poste où vous allez être sans arrêt dérangé, ok, soit vous êtes là parce que vous allez éventuellement renseigner ou tout, mais vous n'êtes pas non plus corvéable à merci, quoi, par rapport au public, si vous voulez. Alors que vous y êtes parce que vous assurez une fonction qui ne se voit même pas. Et je pense que là, la difficulté, et je n'ai pas de réponse, c'est de faire comprendre les moments où vous êtes occupé et les moments où vous êtes vraiment à disposition. Je n'ai pas vraiment de solution. Oui, vous faites le signe d'un petit drapeau. Oui, ça se fait. Il y a des open space qui font ça. Le manager, il fait ça. Il met son petit drapeau vert pour dire que là, on peut venir le déranger. Moi, je trouve ça terrifiant, quoi. Mais je n'ai pas de réponse. Or, je pense que c'est une vraie question. Parce qu'on peut très bien être dans un espace avec une attention flottante pour vérifier que tout se passe bien, être interrompu une fois toutes les 20 minutes parce qu'on va vous demander quelque chose. Mais comment on fait pour qu'il y ait quand même un respect du fait que vous n'êtes pas là simplement pour être là, vous travaillez? Alors, il y a peut-être de la sensibilisation à faire sur vos métiers. Moi, je pense que, de toute façon, le grand public, il ignore complètement ce que vous faites. Enfin, je ne pourrais pas vous casser le moral. Non, je pense qu'il n'a pas idée de ce que vous faites.
Je pense qu'il y a... Les postes qui sont publics, normalement, sont en situation d'accueil.
Oui.
Et les personnes, et on a beaucoup de mal à le faire admettre, mais on travaille beaucoup là-dessus, les personnes qui sont en situation d'accueil ne sont pas censées
travailler autrement.
Se concentrer sur des tâches autres que l'accueil et éventuellement la surveillance. Et je trouve qu'en fait, pour vous contredire un peu, c'est qu'on met souvent l'accent sur la surveillance de la salle dans le positionnement de nos espaces, de nos bureaux de surveillance ou de salles d'accueil, plutôt que sur la mobilité ou sur la disponibilité en fait des agents. Et voilà.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites.
On cherche plutôt à aller dans ce sens-là que.
De toute façon, il y a ce mal bien français qu'on essaye, on vous assomme avec des discours sur la flexibilité et l'autonomie, partout, dans n'importe quel domaine, et on vous accroche à votre table et à votre prise, alors qu'on a tout, mais absolument tout, pour ne pas être accroché, pour pouvoir un peu bouger. Ça, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé l'exemple de tout à l'heure.
On nous accroche un petit peu moins qu'en Angleterre.
En Angleterre ? J'ai pas vu alors ça.
C'est ce que vous avez montré tout à l'heure.
Ah oui, bien sûr. Donc, j'ai bien aimé l'exemple tout à l'heure de, je crois que je ne sais plus dans quelle bibliothèque c'était, mais c'était pas en France, avec l'accueil mobile sur roulette là. C'est vrai que j'ai jamais vu en France.